Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Poi si seppe che era morto in un bordello, tra le braccia di una valdracca irlandese, e che il suo ultimo desiderio era quello di essere lasciato insepolto nella prateria per ringraziarla di quel che gli aveva dato.
Ringraziare la prateria. Roba da matti.
Au sommaire aujourd'hui, un retour sur quelques classiques, chacun dans leur genre, hein, du cinéma. On va d'abord démarrer par un film de Frank Capra de 1926, L'athlète incomplet, une rareté. On parlera de Sensation Seekers de Lois Weber, qui est un film de 1927. Épreuve, un film de 1936 de Edward H. Griffiths. La folle alouette, un film de 1941 de Max Sandridge. Et The Great Moment, un film de 1944 de Preston Sturges. Alors tous ces films-là dont je viens de parler sont disponibles chez Elephant Film. On ira ensuite chez Rimini Édition pour parler d'un film de Cy Enfield, un film de 65, qui s'appelle Les Sables du Kalahari. On causera de quelques sorties Artus Film, à savoir Dragon et de Retour, un film de Edward Greschner, Honneur et Gloire, un film de Inak Boshan, et puis deux films d'Alexandre Pouchko, Les Voiles écarlates et Rouslan et Lunmila. Et puis on quittera Artus Film et on terminera chez Bubble Pop Édition. Alors celui-là il est sorti depuis quelques temps déjà, mais bon, on n'a pas eu le temps d'en parler avant. Et maintenant on l'appelle El Magnifico. C'est un film de Enzo Barboni-Clocher avec Terence Hill. L'équipe de Culture Prohibée remercie Rania Griffith, Sandrine Hiver, Stéphane Chevalier, Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. À mes côtés, pour causer classique, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demédie, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes.
Mon cher Damien, comme tu es le plus jeune de la bande, c'est toi qui vas commencer sur le film le plus vieux aujourd'hui qu'on va chroniquer, puisqu'on va parler d'un film là qui est sorti chez Elephant Film, qui est un film de 1926 qui s'appelle L'athlète incomplet dans son titre français, et qui est un film d'un certain Frank Capra.
L'athlète incomplet, c'est un film qui a quand même 100 ans, hein, juste pour vous le rappeler. C'est du coup un film qui est en effet très vieux, en noir et blanc, qui raconte l'histoire de Paul Bégaud, qui est un soldat de la Première Guerre mondiale où il s'est battu dans les tranchées. Séquence assez courte et on le voit pas vraiment dans les tranchées, mais il va se retrouver emmené aux États-Unis par le grand Zardov, qui se présente comme l'homme le plus fort du monde. Et la raison pour laquelle il se retrouve avec lui aux États-Unis, c'est que pendant qu'il faisait la guerre, il a reçu des lettres de Mary Brown, qui est une jeune fille dont il est tombé amoureux et qu'il essaye de retrouver. Alors, comme il a été dit, c'est Frank Capra qui fait ce film, c'est un de ses premiers films, ce qui permet de le lancer. On a un peu pareil avec Harry Langdon qui tient le rôle principal, comme j'ai dit, qui s'appelle Paul Bigot, qui est un personnage qui est assez particulier, un peu naïf, innocent, assez stupide et un peu ridicule. On a l'impression qu'il est incapable de dire non. Du coup, il se retrouve un peu baladé un peu partout. Ce qui nous offre une comédie burlesque. Alors, le début avec la Première Guerre mondiale, c'est vraiment très étrange parce qu'il y a ce côté d'une guerre assez simple, en fait, pas du tout perturbante. C'est-à-dire que la première scène qu'on a, c'est en effet dans les tranchées, mais lui, il n'est pas dans les tranchées, il est un peu plus loin sur la ligne de front. Il tire avec une mitrailleuse, on ne sait pas sur quoi, un peu aléatoirement. Et pendant qu'il tire avec, il essaie de dégommer une canette sur le côté qu'il n'arrive pas à atteindre jusqu'à ce qu'il sorte son lance-pierre et qu'il arrive à le toucher. Et à ce moment-là, un soldat allemand surgit. Alors, le début est très particulier du film. Et ensuite, on ne sait pas trop pourquoi il se retrouve aux États-Unis par le même Allemand qui combattait, qui à la fin de la scène des tranchées, là on est. Et en fait, c'est un film où les différentes scénettes vont s'enchaîner les unes à la suite des autres, et il se retrouve dedans un peu toujours comme par hasard, ce qui est un peu la base de la majorité des comédies burlesques de l'époque. Par exemple, il y a une scène où une femme s'effondre devant lui, il hésite un peu à l'aider, mais au dernier moment il se retrouve un peu obligé parce que il y a un mec qui était juste à côté qui fait non mais attendez, la femme avec qui vous êtes, elle s'est effondrée, faut quand même aller l'aider, vous pensez pas? Et lui, un peu bonnet et de force, il y va. Parce que ce film, en fait, il tourne autour d'une histoire d'amour, c'est-à-dire lui qui est en quête de cette fille dont il rêve en fait depuis très longtemps, parce que tout ce qu'il avait d'elle, c'était juste des lettres. Et le petit plot twist qui arrive au milieu du film, c'est qu'on se rend compte que cette femme, c'est une femme qui est aveugle et qu'elle ne lui a jamais avoué qu'elle était aveugle, ce qui est assez bizarre. Parce que je vous rappelle qu'elle lui a écrit des lettres. Donc elle a dû recevoir de l'assistance. Et ce côté histoire d'amour qui sépare les deux, sachant qu'il n'a pas d'argent, ça se voit notamment vu l'état de ses vêtements, ça me fait penser beaucoup à Lumière sur la ville de Chaplin, qui sortira en 31, donc quelques années plus tard. L'autre truc qui est amusant avec ce film, c'est que en fait, il lance plus ou moins la carrière de deux personnes, c'est-à-dire la carrière de Frank Capra et celle de Harry London. Ce qui est intéressant parce que ça en fait un bon film pour les découvrir, surtout découvrir les débuts pour l'un d'une légende, pour l'autre d'une étoile filante.
Oui, tu as très bien résumé cet athlète incomplet donc de Frank Capra, qui peut effectivement évoquer les lumières de la ville de Chaplin, hein, et qui est sorti là chez Elephant Film, qui est une vraie curiosité en fait à découvrir. C'est un film très rare, il n'y a quasiment plus de traces des premiers films de Capra, donc c'est à voir. Pour tous les cinéphiles, c'est à voir, mais on est loin de La vie est belle, enfin, ou d'autres films de Capra, évidemment, de New York, Miami, avec Claudette Colbert, par exemple. Enfin, on est loin de tout ça,
c'est un début.
Mais c'est un début, voilà, c'est le début. À l'époque, il est gagman pour Max Sennett, et puis il va créer ce personnage pour Harry Langdon, en fait. C'est d'ailleurs lui, parce qu'il ne trouvait pas Harry Langdon très drôle, visiblement, d'après ce que j'ai compris de ce que j'ai lu en préparant l'émission. Et du coup, il va créer ce personnage pour essayer de rendre drôle Harry Langdon. Disons que c'est à moitié réussi, et puis... seulement à moitié réussi. C'est-à-dire qu'il y a de meilleures comédies à l'époque burlesque, même si le film Le coup du lance-pierre, par exemple, ça et tout, on réserve des gags plutôt sympathiques.
J'aime beaucoup la soulever de poids.
Également, aussi. Je vais parler d'un autre film sorti par Elephant Film, hein, qui est différent, qui est d'abord qui permet de mettre en avant une femme qui est en fait assez peu connue aujourd'hui, mais qui est pourtant une des grandes pionnières du cinéma. Je vais vous parler de Sensation Seekers de Louise Weber, un film de 1927. Alors Louise Weber, elle est née en 1879, elle est morte tout à la fin des années 30, et elle a d'abord été actrice, puis après elle a été réalisatrice, militante féministe quand même pour le contrôle des naissances. Alors qu'on, en fait, quand on parle de contrôle des naissances, c'est revendiquer le droit à l'avortement, en fait, hein, dans la première moitié du XXe siècle. Et d'ailleurs, dès 1916, dans Where Are My Children, elle aborde ce sujet déjà, hein, donc c'est dire qu'elle était, c'est quelqu'un qui était très engagé. Dès 1917, elle est à la tête de son propre studio, la Louise Weber Production, et puis après, c'est même la première femme qui a mise à la Motion Picture Directors Association. Et elle signe donc aussi en 1921 The Blood, qui est un film anticapitaliste. Donc c'est une grande innovatrice, hein. Par exemple, elle était une des premières à utiliser la lumière naturelle. Et après la fermeture de son studio en 21, elle va prendre la tête du département écriture de la Universal et réaliser quelques films, donc, dont ce Sensation Seekers, qui nous raconte la rencontre entre un pasteur qui est plutôt progressiste et pas encore marié, et avec une de ses paroissiennes vue comme scandaleuse, et qui ne va pas beaucoup à l'église, évidemment, ils vont tomber amoureux, et elle va devoir, afin de préserver cet amour, quelque part le sacrifier. Mais la situation, à un moment, va s'inverser. Enfin, je ne vous raconte pas tout le film. Et c'est donc un film qui raconte aussi une manière d'être libre pour une femme et de s'émanciper de la pression religieuse. Et dans lequel, en plus, les méchants, parce qu'il y a des méchants, sont plutôt des rentiers pleins aux as... confrontée donc à une femme assez libre et indépendante. Et le film, bah, aujourd'hui, il est intéressant à voir aujourd'hui, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de films encore de Loïs Weber qu'on peut voir, donc on peut remercier les fonds de films de le sortir. Et en plus, on voit bien qu'il y a un vrai propos avec une critique des arriérations sociétales du début du XXe siècle, et une attaque virulente contre la bourgeoisie. Et le film est porté par une héroïne magnifique, hein, par une actrice qui s'appelle Billy Dove. Et donc, Sensation Seeker, c'est vraiment un film passionnant à redécouvrir. C'est chez Elephant Film. Et c'est un film qui est d'ailleurs sorti, il n'a pas encore 100 ans, il a 99 ans, juste après L'Athlète Incomplet, dont on a parlé avant.
Moi, mon nom, c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont... Sors de l'ombre, faites chauffer les amplis pour donner un peu d'air. C'est clair, la route est longue à ce qu'on dit pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. Pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférez les dociles. Je veux toujours moins en faire.
Vous écoutez Culture Prune.
Allonge du cash pour se moquer. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport.
Je vais toujours rester chez Elephant Film avec Épreuve, Épreuve au pluriel. Donc un film de 36, là on fait un petit bond dans le temps. Un film de Edward H. Griffiths et avec Margaret Sullavan et James Stewart. Et puis en acteur bonus, il y a Ray Milland. C'est pas mal quand même. Et bien sûr, tout de suite, comprend dans quel terrain on est pour les cinéphiles, puisque Margaret Sullavan et James Stewart, c'est le duo de Shop Around the Corner de Ernst Lubitsch en 40. C'est-à-dire que là, on assiste un peu à la naissance d'un duo, une sorte de duo magique comme ça. Il y a une sorte de, entre eux deux, de, comment dire, de rencontre qui s'opère. Il y a un charme magique comme ça. Les deux comédiens s'accordent parfaitement. Donc là, on est en 27. Il y a, c'est l'histoire d'un journaliste plein d'ambition, hein, donc James Stewart, qui doit, qui dépose à la gare Cicely Hunt, donc Margaret Sullavan, parce qu'elle s'apprête à passer 18 mois à l'université. Et en fait, toute leur vie, ça va être comme ça, c'est-à-dire que c'est un couple, bah, ils vont se marier, hein, du coup, après, dans la foulée, mais qui va sans cesse, pour des choix de carrière, devoir se séparer, vivre loin l'un de l'autre, tout ça. En fait, c'est un thème récurrent du cinéma qu'on retrouve par exemple très récemment dans La La Land de Damien Chazelle. Hein. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que chacun poursuit sa carrière. Et puis voilà, alors là, c'est traité pas du tout comme chez Ernst Lubitsch, parce que là, c'est traité plutôt sur un côté dramatique, côté même voire mélodramatique. Et c'est un mélo plutôt agréable, sachant que je ne suis pas un gros fan de mélo, mais qui marche grâce à l'abattage de l'excellente et méconnue Margaret Sullavan. Parce que si James Stewart a fait une belle carrière, Margaret Sullavan, on l'a un peu oublié. Et c'est une actrice qui est dotée d'un sens vraiment unique du tempo, d'où sa complémentarité avec James Stewart, dont le charme suave et l'élégance, ainsi que le sens du rythme, font toujours merveille. C'est-à-dire que Stewart, il s'adapte à elle et ça fait comme une sorte de partition de ténors, quoi, qui s'accordent, de maestros plutôt, qui s'accordent à la perfection. Donc alors, c'est pas aussi bien que le Lubitsch que je vous ai cité tout à l'heure, mais c'est un film qui mérite d'être découvert. Et il y a, un troisième larron dans la bande qui est joué par Rémy Land, c'est pareil, qui est aussi très très intéressant. C'est un peu aussi la naissance de tous ces acteurs et tout qui vont justement après régner sur Hollywood, hein, dans les années à venir. Et puisqu'on parle de Rémy Land, justement, on va parler d'un autre film qui est sorti chez Elephant Film, c'est La Folle Alouette de Marc Sandrich. Marc Sandrich qui signe ce film avec idéalement Claudette Colbert. Alors, Claudette Colbert, vous savez, je l'adore, hein, cette actrice d'origine française, américaine d'origine française, qui est une actrice que je trouve assez exceptionnelle. Et puis qui a une particularité, il faut en revenir, qui a une carrière très longue par rapport à d'autres acteurs, actrices de l'époque. Alors là, c'est simple, c'est l'histoire des Kenyon, c'est un couple, et ils ont 5 ans de mariage, mais en fait, on s'aperçoit que, un peu comme dans le film d'avant, mais là, ça va être traité sur un mode plus léger, que le mari, il passe plutôt tout son temps à bosser, il bosse dans la pub, lui, et qu'elle, elle aimerait bien retrouver la flamme de ses débuts, la belle Claudette Colbert, qui toute feu, tout flamme, et qui va, du coup, fricoter avec un autre homme. Alors, cette Folle Alouette, donc, c'est une comédie donc, plutôt romantique, hein, de Marc Sandrich, qui est adaptée d'une pièce, d'ailleurs, et qui raconte l'histoire classique tant de comédies, c'est-à-dire le triangle amoureux. En fait, c'est une comédie très rythmée, avec plein de scènes burlesques, mais surtout c'est une comédie qui marche parce qu'il y a Claudette Colbert. Elle fait des merveilles, comme d'habitude. On rappelle quand même que son talent hors norme fait qu'elle a quand même occupé la tête d'affiche de nombreux films entre 1927 et 1961. C'est dire que c'est une carrière absolument incroyable. Il y a très peu d'équivalents pour les actrices de sa génération. C'était l'actrice fétiche de Capra, dont on a parlé au début de l'émission, hein, et qui louait Capra. Il parlait d'elle en disant qu'elle avait un sens unique pour la comédie. Et elle est vraiment ici l'artisan essentiel de la réussite de ce film, en fait, en vérité, hein, parce qu'elle fait une prestation assez incroyable. Et cette comédie, c'est en fait une comédie de remariage. Une comédie de remariage dans laquelle donc, on retrouve aussi Rémy Land, d'ailleurs, hein, dont on parlait à l'instant. Hein, et dans cette comédie de remariage, il y a vraiment des scènes assez réussies. Et je pense en particulier à une scène de préparation de repas sur un yacht qui est assez hilarante. Donc voilà, La Folle Alouette. Si, comme moi, vous êtes amoureux de Claudette Colbert, je vous invite à le voir. C'est un film de Marc Sandrich et c'est disponible chez Elephant Film. Et puis, pour terminer un peu ce petit tour d'horizon Elephant Film, Je vais vous parler de The Great Moment, un film de Preston Sturges, un film de 44. Alors, Preston Sturges, c'est un scénariste très prolifique. On en a parlé cette année parce qu'avec avec Billy Wilder, il fait partie des gens qui avaient... comment dire, qui avait eu des mots très durs, qui avaient été homophobes en fait avec Mitch Leisen et qui ont contribué un peu à faire descendre de son pied d'estal l'autre réalisateur Leisen, qui était mis en avant dans un très beau coffret aussi par Elephant Film. Et Sturges, c'était un scénariste très prolifique. Hein. C'est par exemple lui qui a fait le scénario de L'Homme Invisible de James Whale. C'est un très bon scénariste qui était en plus très protéiforme. Par contre, c'est un réalisateur peu prolifique. Il a fait à peine plus d'une dizaine de films, dont ce fameux The Great Moment, et qui raconte un truc assez étonnant. C'est un biopic sur un dentiste qui découvre en fait l'anesthésie moderne. C'est-à-dire, par ses travaux sur les terres et tout, il va réussir à anesthésier des gens. Et en 1846, hein, il le découvre en 1846. Donc du coup, c'est un vrai précurseur de la médecine moderne. Et alors, pourquoi il a voulu faire un biopic sur ce gars, je ne sais pas. C'est un choix assez étonnant. Hein, et c'est Preston Sturges, à l'époque, on est en 44. Quelques années avant, il a eu l'Oscar du scénario pour Gouverneur malgré lui. Il a vraiment le vent en poupe, et comme je vous le disais, il était très protéiforme, tout ça. Et puis, ici, le scénario de ce biopic qui devait être confié à Henry Hathaway et joué par Gary Cooper et Walter Brennan. En fait, ce ne sera pas le cas, ce sera Joel McCrae qui va jouer dedans, Betty Field aussi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la Paramount va laisser le projet au final à Preston Sturges. Preston Sturges va décider... Parce que c'était un réalisateur très intéressant, hein, Preston Sturges. C'était pas qu'un bon scénariste, c'était aussi un réalisateur dans la forme qui tentait des choses. Et donc là, il va essayer de raconter le film en jouant sur les temporalités via des flashbacks. Et il va y avoir des projections tests, en fait. Et les décideurs de la Paramount, le public, tout ça, ils vont trouver le film trop complexe. Et le film va être retouché, remonté. C'est un peu un film maudit, en fait, de Sturges. C'est un film qui lui est pourtant très, très personnel. Et là, ce qu'il en reste, c'est une œuvre quand même dans la construction très ambitieuse, hein, malgré tout. Il en reste quelque chose de très, très ambitieux. Et c'est aussi une sorte de film doux-amer, au ton très singulier à redécouvrir. C'est vraiment un film qui ressemble à aucun autre. Dans le fond, déjà, dans ce qu'il raconte, et puis dans la forme. C'est un drôle de film sur l'héritage qu'on laisse, sur la postérité, sur ce que c'est que le destin d'un homme. C'est étonnant. Voilà, je vous invite donc à voir The Great Moment. C'est un film de Preston Sturges avec Joel McCrae, et c'est également disponible chez Elephant Film.
There in the old Kalahari, Darsundi Burasu, here on the old Kalahari, the old Kalahari Bull. Endless the plains all around me, the burning sun and sand, lovely. My old Kalahari land. Zombi sesum on your bosu, di hatu gu som tu first smile. Roy African de Rossi, signe o maca dry. Fair in the old Kalahari, tortarum.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial cinéma classique.
Thank you.
when I'm called on safari by him whom I cannot deny. I pray that the old Kalahari will be part of that land in the sky.
On va maintenant quitter notre ami pachyderme pour aller dans les sables du Kalahari chez Rimini Édition, un film de Cy Hanfield.
Je me suis replongé dans ma géographie pour savoir un peu de quoi je parle exactement. Le désert du Kalahari, c'est un énorme banc de sable et de rochers qui est situé entre les bassins versants des fleuves Zambèze et Orange et qui couvre une large partie du Botswana et s'étend vers la Namibie et l'Afrique du Sud. Donc ça fait 900 000 km² quand même. Donc qui a envie d'aller passer du temps dans le désert du Kalahari ? Il fait chaud, un petit peu. Et ce n'est certainement pas le cas des personnages principaux du film que réalise Cy Hanfield en 65, donc Les Sables du Kalahari, où six personnages qui, après le crash de leur avion, se réfugient sur un mont rocheux en plein désert du Kalahari. Cy Hanfield, c'est un cinéaste qui est quand même assez méconnu, qui a fait un film que moi j'adore, qui est Zulu, Zulu qu'il a fait juste avant, Zulu avec Michael Caine et déjà Stanley Baker, un acteur avec qui il a beaucoup collaboré. Et là, il reprend un peu les mêmes thèmes dans Les Sables du Kalahari. C'est un film beaucoup plus contemporain qui se passe de façon, enfin, à l'époque contemporaine. Et les thèmes notamment du colonialisme, du capitalisme, parce que Cy Hanfield était quand même un fervent communiste. Tout du moins, il l'était quand il était aux États-Unis où il est parti à cause du McCarthyisme. Et là, le film commence déjà d'une façon assez... dès les premiers plans, on sait où on va. C'est-à-dire qu'il oppose... des femmes qui prennent de l'eau dans une mare pas très propre, hein. Et puis dans le même plan on voit un aéroport assez moderne avec un avion qui atterrit, d'où sortent les personnages qu'on va suivre durant 2 heures. Et donc dans ce naufrage, dans cette espèce de huis clos, parce que ça va devenir un huis clos à ciel ouvert, hein, ces personnages, donc après le crash de leur avion, se réfugient sur un mont rocheux où il y a des babouins. Les babouins, ce n'est pas forcément les animaux les plus sympathiques qui existent au monde. Et donc, ils vont essayer de survivre là, en attendant de pouvoir trouver des secours, en attendant que des secours viennent les chercher. Ils vont survivre sur ce mont rocheux. Alors évidemment, c'est un discours... sur le colonialisme, mais c'est aussi une parabole sur la société de consommation, sur le capitalisme, parce que ce qu'il fait de ces personnages, je trouve que le film, il est de 65, mais 60 ans plus tard, il est toujours d'actualité. Il trouve toujours un écho, en plus avec l'actualité internationale, notamment avec Donald Trump, pour ne pas le citer, il trouve un écho tout à fait pertinent. Il y a un personnage en particulier qui est interprété par Stuart Whitman. Stuart Whitman, c'était un acteur qui était quand même grand, musclé, et puis là, pendant tout le film, il se balade quasiment à poil. Il porte un short, il est torse nu. Et c'est un Américain qui est chasseur de fauves. Et c'est lui qui va prendre les rênes, qui va essayer de s'imposer au sein de ce groupe. Et surtout, il va vouloir dompter la nature. Il va vouloir... En fait, cette espèce de mont rocheux, c'est comme si c'était un peu le mont Olympe. Et ce personnage d'Américain qui ne se sépare jamais de son fusil. Son fusil, c'est limite, il n'a pas une relation amoureuse avec son fusil. Il ne se sépare jamais de son fusil. C'est comme si c'était Zeus, en fait. En fait, quand il tire sur les babouins, c'est comme si Zeus envoyait des foudres sur ces animaux. Et il y a ce personnage qui, bien sûr, va prendre le pas sur les autres, va bien évidemment vouloir séduire la seule femme du groupe, qui est interprétée par Susanna York, qui est toujours belle, toujours bien coiffée, etc. Alors, sur le coup, on se dit, bon, c'est quand même pas réaliste, mais quelque part, finalement, ces personnages, ce sont un peu des ersatz des dieux de l'Olympe. Cet personnage interprété par Susanna York, quelque part, c'est Aphrodite que veut se taper Zeus, en fait. Voilà. Et ce personnage d'Américain, il veut dompter la nature, il essaie de tuer les babouins, un coup en les en fumant, un coup en leur tirant dessus. Et je trouve qu'il y a tout ce rapport sur le pouvoir, sur le fait de vouloir contrôler les choses par rapport à ce personnage. Et encore ce personnage, c'est quand même ses premières victimes, ce sont les intellectuels. Bien sûr, chaque personnage, les six personnages, ont leur particularité. Il y en a deux, ce sont des intellectuels. Il y a le pilote d'avion qui, à un moment, voulait justement prendre le pas sur les autres, mais qui se dévoue pour aller chercher de l'aide à travers le désert, et qui, lui aussi, voulait prendre Susanna York. Hein. À un moment, il y a une scène, une tentative de viol qui est quand même assez dure. Et il y a ce rapport de force entre les personnages. Et pour moi, c'est un film aussi qui parle de la société de consommation, du capitalisme. Parce que quand on voit ces femmes au début qui vont prendre de l'eau croupies, sales, etc., ces personnages que l'on voit tout propres sur eux sortir de l'avion, finalement, dans le film, ils font la même chose. Ils vont se retrouver à boire de l'eau comme ça, dans des flaques qui sont pas très propres non plus. Il y a quelque chose de retour au primitif dans ces personnages. Et je trouve que ce film, pour toutes ces raisons-là, il touche des thématiques qui, 60 ans plus tard, ne s'enlisent toujours pas.
On rappelle que Les Sables du Kalahari de Cy Hanfield, donc un film de 65, est disponible chez Rimini Édition.
I met my love by the gasworks croft. Dreamed a dream by the old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial classique du cinéma.
Moi, je vais aller faire un tour du côté de chez Artus Film et dans les pays de l'Est, quoi. Voilà, parce qu'Artus Film nous a sorti là toute une série de films vraiment pas piqué des verres, plein de belles découvertes. Je vais commencer par un film de Edouard Grechner. Edouard Grechner, donc film tchécoslovaque. Et oui, ça a existé, la Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, on parle de Tchéquie d'un côté, de Slovaquie de l'autre. On parle de République tchèque, ça dépend. C'est un film de 68 qui s'appelle Dragon est de retour. Alors ça a été une découverte incroyable, hein, parce que moi, sans Artus Film, je pense que je n'aurais jamais vu ce film. Donc je ne les remercierai jamais assez. Alors il y a Martin, c'est un potier, en fait, et il est surnommé Dragon. C'est un type assez solitaire, assez taciturne. Et puis, en fait, pas très aimé du reste des villageois. Hein. On vit dans un coin assez reculé. Hein. Et il est accusé, alors évidemment à tort, mais d'être à l'origine des catastrophes naturelles qui secouent la communauté. Et après des années d'absence, il va retourner au village, mais sans parvenir à gagner la confiance des autochtones. Et même lorsqu'il va risquer sa vie pour sauver un troupeau de moutons pris dans les flammes d'un feu de forêt, il ne va pas obtenir la reconnaissance attendue. Et à partir de là, Edward Grechner va construire un drôle de film sur ce qu'est la rédemption, sur ce qu'est aussi l'isolement, la solitude. Le film, sincèrement, a une atmosphère à la limite du fantastique. Beaucoup d'ailleurs grâce à la photo d'un certain Vincent Rosinec. Et surtout, le film flirte avec vraiment le cinéma le plus expérimental possible. Quoi. C'est très sec. C'est cet anti-héros borgne, charismatique, parce qu'il est borgne en plus, il a un bandeau sur l'œil. Enfin, il est très, très impressionnant. Il y a une grande sécheresse des images, de la mise en scène, et en même temps, c'est très stylisé. Et avec le montage, en fait, il y a des jeux avec le montage qui font que par moment, on est dans quelque chose de quasiment hypnotique. C'est vraiment un film avec plein d'idées de mise en scène. Ça n'arrête pas. On est un peu perdu des fois dans l'intrigue. Hein. Pourtant, c'est pas l'intrigue paraît simple comme ça, mais on est parfois un peu perdu dans les péripéties. Mais il y a aussi une belle idée de mise en scène qui est celle de filmer les visages et de faire voir le délabrement progressif des visages qui vient en contrepoint à l'état de délabrement du village, en fait. Il y a une sorte de métaphore de l'état du village. Enfin, il y a plein de belles choses dans le film. Il y a aussi la musique d'Ilja Zelenka, j'espère que je le prononce bien, qui contribue à donner une atmosphère particulière à ce film singulier, qui peut toute proportion gardée, mais quand même, hein, évoquer le cinéma d'un certain Andrei Tarkovski, par exemple. Alors, c'est une bien belle découverte à découvrir chez Artus Film. Et ça s'appelle Dragon et de retour. Et dans la même veine, Artus Film nous sort un film qui s'appelle Honneur et gloire. Alors, rien que le titre, on est effectivement là aussi, on a l'impression qu'on va être dans les mêmes thématiques. Alors, on est un peu dans les mêmes thématiques, mais on est plus sur du cinéma historique, là. On est un film de 69, on est en 69. Ça, c'est un film de Inak Boshan. Et c'est encore une très belle découverte du cinéma tchèque. On est en Bohème, en 1647, à la fin de la guerre de 30 ans. C'est pas très joyeux, hein, l'époque, hein, voilà. Et il y a le chevalier Rinda qui est au sein de sa forteresse et qui tente de nourrir sa famille et ses gens, hein, voilà, tout simplement. Et en 1620, son père avait subi une défaite lors de la bataille de la Montagne Blanche, ce qui l'avait obligé à renier en fait sa foi protestante pour rejoindre la couronne catholique de l'empereur. Et un soir, un commissaire de l'empereur, accompagné de son épouse, demande l'hospitalité à Rinda. Ils sont en fait des agents du roi de France, cherchant à faire soulever les paysans contre les Habsbourg. Et là, on va être confronté à un film un peu comme le précédent, un drame historique, plus d'ambition là, scénaristique, mais qui est un peu comme le précédent, qui est parfois ardu à suivre, mais qui subjugue de par une beauté plastique complètement sidérante. Certaines visions de charniers, de scènes de combats de cadavres enchevêtrés les uns sur les autres, anticipe presque le Verhoeven de la chair et le sang. On retrouve cette sauvagerie un petit peu dans ces images, là, ces charniers qui sont dignes des enfers de Dante vus par Botticelli. Et puis, comme le film précédent, hein, Honneur et gloire, on a un film qui est vraiment hypnotique et dont la sécheresse et la violence peuvent parfois déconcerter, parce que la violence, malgré tout le côté presque onirique du film, par moments, elle est très réaliste. Et au final, ce film, c'est un véritable conte, c'est envoûtant. Et Honneur et gloire, en fait, c'est une réflexion passionnante sur ce qu'est le fanatisme, en fin de compte. Hein, voilà. Donc moi, j'ai envie de dire un grand merci à Artus Film
pour nous faire découvrir tous ces films-là. Je sais pas où ils vont chercher tout ça, mais pour moi, c'est vraiment des découvertes. Là, pour le coup, moi, je connaissais pas du tout ces deux films que sont Dragon et De Retour et Honneur et Gloire. Et franchement, c'est des titres sur lesquels moi, j'invite tous les cinéphiles à se précipiter parce qu'on ne voit pas des films comme ça régulièrement. Voilà. C'est un vrai choix éditorial, donc c'est ça qui est vachement bien. Je vais maintenant passer la parole à... On va rester à l'Est. Hein. À mon ami Damien, pour parler d'un film d'Alexandre Touchko qui s'appelle Les Voiles écarlates. C'est un film de 61.
Alexandre Touchko, on avait déjà parlé, vu qu'on avait parlé d'un de ses précédents films qui était Le Géant de la Steppe. Ici, il fait une adaptation d'une œuvre éponyme qui s'appelle Les Voiles écarlates. Et l'histoire, au début, elle est un peu compliquée à suivre. Bon, Les Voiles écarlates, ça nous vend un bateau avec des voiles qui vont être « Ne tombez pas de votre chaise ». Écarlate. Mais la façon dont l'histoire débute, en fait, je trouve qu'elle nous emmène sur plusieurs voies et nous perd très souvent. Alors, ça raconte l'histoire de Longrin qui rentre d'un long voyage en mer. Il apprend que sa femme est morte il y a 3 mois et qu'elle a laissé son bébé à la voisine. C'est la voisine qui lui apprend toute l'histoire. Sachant que quand il était parti, sa femme était enceinte. Donc, en fait, il découvre son enfant à ce moment-là. Et Hassel et Longrin, ils vont grandir. Elle va grandir, surtout elle, en étant rejeté du village parce qu'en fait il y a un autre homme qui s'appelle Méner. La femme de Longrin était allée la voir pour lui demander de l'aide, mais il l'avait pas aidé, il avait plutôt essayé de l'agresser, et Longrin, pour se venger, l'a laissé mourir en mer, ce qui fait que tout le village va les rejeter à cause de ça. D'autant plus que ce village va commencer à se moquer d'Assol parce que lorsqu'elle est très jeune, en fait, elle va recevoir la prédiction d'un vieil inconnu qui va lui dire un jour un bateau avec des voiles écarlates viendra et à bord de ce vaisseau, il y aura un prince qui sera là pour t'épouser. Avenir qui peut sembler étrange vu qu'il sort un peu de n'importe où, mais ce qui est intéressant, c'est que le film suit en parallèle un autre personnage. Il suit Arthur Grey, qui est un prince jouant au Rambat des Bois. Alors, prince enfant, s'amusant à jouer au Rambat des Bois dans sa maison, à prendre l'argent de ses parents pour les donner à ses serviteurs. Et lui, ça tombe bien, parce qu'il préfère plutôt devenir marin que devenir seigneur de terre. Et ces histoires, en fait, vers la fin du film, elle se rend compte, mais c'est un film qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de son temps. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à un film de l'URSS, ce qui explique aussi peut-être le fait que le prince qui est joué par Arthur Grey s'oppose au statut de son père, qui le voit d'une mauvaise vision. L'autre chose qui est amusante, c'est que le fait que lorsqu'il est enfant, il joue à Robin des Bois, ça reprend un peu l'idée justement de Robin des Bois, prince des voleurs, avec ce... c'est dans le titre Prince des voleurs, un prince qui prend l'argent et qui essaye de le donner aux plus pauvres. Mais ce qui est amusant avec Les Voiles écarlates, en fait, c'est que ce film, en fait, c'est un conte de fées, mais c'est un conte de fées version russe. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec la belle orpheline qui épouse un prince charmant mais anti-royauté, comme une princesse Disney. Vers la fin, elle chante au milieu des arbres, elle parle avec les arbres. Bon, un peu comme Blanche-Neige, même si Blanche-Neige, elle parle plutôt aux animaux. C'est une fille orpheline, un peu comme beaucoup de personnages chez Disney. Elle est la risée du village, comme Belle dans La Belle et la Bête. Et du coup, on a vraiment affaire à une sorte de version live d'un Disney russe. Alors, je le préfère moins au Géant de la Steppe. Je préfère le Géant de la Steppe, peut-être parce que dans le Géant de la Steppe, il y a un peu plus d'affrontements, alors que là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques effets de montage, mais on ne va pas vraiment dans l'expérimentation, ce que je trouvais un tout petit peu triste. On va tenter des trucs, par exemple, quand Arthur Grey est jeune et qu'il joue dans son château à devenir un futur marin, il y a un moment où il y a une scène avec des pirates qui commencent à les attaquer, et c'est le moment où la gouvernante débarque, et en fait, la scène fait un truc assez sympathique, c'est que là où ils étaient entourés de pirates, les pirates disparaissent, et c'est juste lui face à la gouvernante qui lui dit que c'est le moment d'aller retourner travailler. Notre effet qui arrive à un moment, c'est des effets de superposition. Le moment où Arthur Grey est devenu adulte et surprise, il est devenu marin avec son propre bateau. On le voit avec derrière des fonds colorés qui représentent des tempêtes et d'autres navires en train de naviguer. Mais ça reste vraiment quelque chose de très très simple parce que le film en soi est lui-même très simple. Comme je vous l'ai dit, c'est littéralement un Disney, un conte de fées, mais version russe.
Il faut savoir que, en fait... faire ce film, alors Pop Touchko, c'est un film qui a été tourné rapidement. Il est tourné en 6 mois, ce qui Pop Touchko est rien du tout parce qu'il mettait plusieurs années à faire un film. Donc il a dû un peu économiser sur ses techniques habituelles et tout ça. Mais c'est un film qui reste très magique. Enfin, je veux dire, il y a une, Il y a une beauté plastique hors norme. L'œil est tout le temps flatté. Enfin, c'est vraiment... bon, c'est naïf, c'est vrai. On avait aussi parlé de Sampo, qui était aussi sorti chez Artus Film, qui était vraiment bien aussi. Il faut savoir, quand même, c'est intéressant de le savoir. C'est-à-dire que ce film... pouvoir faire ce film a été rendu possible pour Ptouchko grâce au fait que Khrouchtchev était arrivé au pouvoir avec la déstalinisation, en fait, qui était engagée. Parce qu'il faut savoir que c'était adapté d'un écrivain, pourtant très à gauche, qui s'appelle Alexandre Green. Et Staline ne voulait pas en entendre parler, parce qu'évidemment, dans ce... il y a une critique de la bureaucratie dans ce récit. Et donc, c'était un peu un auteur qui était voué aux gémonies, et le fait qu'il y ait une certaine détente avec l'arrivée de Khrouchtchev, alors détente entre guillemets, mais enfin, quand même, par rapport à Staline, c'était la détente, quoi. Du coup, il a pu adapter ce livre, et voilà, puis en faire le film que tu as décrit, qui est un joli film, qui n'est pas le film que je préfère de Ptouchko, mais qui est un joli film.
Écoutez Culture Prohibée.
Avec les Voiles écarlates, donc là, de Ptouchko, nos amis d'Artus Film, ressortent aussi un film qu'on connaissait déjà, hein, puisqu'on l'avait déjà vu du temps de la VHS, tout ça, on l'avait déjà vu, mais qui s'appelle Rouslan et Ludmila, qui est un film de 72, qui raconte l'histoire de la princesse Ludmila, qui est enlevée, on est toujours dans l'univers du conte, hein, chez Ptouchko, qui est enlevée par un sorcier le soir de ses noces, avec l'héroïque Rouslan. Et plusieurs prétendants de Ludmila partent à sa recherche, dans l'espoir de la récupérer, évidemment, et puis surtout de se marier avec elle pour récupérer, ben, c'est bien, parce que le père de Ludmila, il a promis de céder ses biens et qu'il retrouverait sa fille. Tandis que, pendant ce temps-là, Rouslan, lui, là, il enchaîne les combats contre toutes sortes de forces maléfiques pour délivrer sa belle, sa dulcinée. Voilà. Donc, je pense que là, il y a eu plus de temps pour le faire. Et que le film est particulièrement impressionnant. Enfin, je veux dire, il y a des reconstitutions, il y a des batailles, il y a des moments, comment dire, mythologiques, quoi. Vraiment, c'est vraiment... on n'oublie pas quand on a vu le film. Et puis tout est parfait, quoi. Les costumes, les décors. Bon, les décors du précédent étaient chouettes aussi, hein. La grande bibliothèque, tout ça, c'est des décors assez fastueux, quoi. Très, très impressionnants. Et là encore, il utilise des superpositions d'images, qui est vraiment un des grands trucs de Ptouchko, hein, qui est vraiment un truc qu'il adore faire. Et en fait, on n'arrête pas, hein, on n'arrête pas d'aller de péripétie en péripétie. Il faut avoir gardé son âme d'enfant, hein, évidemment, mais ça n'arrête pas. Des spécialistes et historiens russes dans les bonus qui dévoilent pas mal de choses sur les films. Ça, c'est très, très intéressant. Donc c'est une très belle édition, hein. C'est une des plus belles là, qui a été consacrée à Ptouchko par Artus Film. Et c'est une histoire de pro-chevalier, c'est mignon, quoi. Et en même temps, c'est vraiment très beau. Et puis il y a un petit livre avec, qui est écrit par Mathieu Red, qui est vraiment, lui, spécialiste de Ptouchko. Et on apprend beaucoup de choses, et en particulier sur le tournage du film, tout ça, ça n'a pas été si simple que ça, en fait. Et donc, c'est très complet. Enfin, bref, si vous ne pouvez vous satisfaire des effets numériques d'aujourd'hui, ce petit film merveilleux, voilà, il est pour vous. Donc ça, c'est chez Artus Film, c'est Rouslan et Ludmila. C'est un film assez tardif, c'est 72, hein, quand même, de Ptouchko. On est déjà à une époque où ce cinéma-là rencontre plus forcément l'écho qu'il rencontrait encore quelques années avant. Moi, je voulais terminer cette émission par un petit clin d'œil, par un film dont je devais vous parler il y a un moment, et puis il y a eu des rendez-vous manqués. On n'a pas pu accueillir dans l'émission l'ami Christophe Chavdia, qui écrit un très beau livret pour ce film. Ce film, c'est Et maintenant, on l'appelle El Magnifico. Alors, vous pouvez lire, du coup, l'entretien qu'on a eu avec Christophe Chavdia sur le blog culture-prohibé.blogspot.com, où on a pu, du coup, faire cet entretien vous faire lire la version tapée, écrite. Voilà, vous apprendrez plein de choses, vous allez voir. Donc j'en profite pour saluer Christophe. Tu as un petit salut de Cuccio. Voilà. Et alors, donc, ce film, et maintenant, on l'appelle El Magnifico, signé Enzo Barboni, qu'on appelle parfois E.B. Clocher, est sorti donc chez Bubble Pop, et c'est un film avec Terence Hill. C'est même le premier western où Terence Hill est tout seul après que le couple qu'il forme avec Bud Spencer se soit formé. Après, il tournera que des duos avec lui, en fait. Avant, il a tourné que des duos avec lui, et après, il tournera que des duos avec lui. Il n'y a que ce film-là où il est tout seul. La même année, d'ailleurs, Bud Spencer, on est en 72, il tournera aussi Une raison pour vivre, une raison pour mourir. Très bon film de Tonino Valéry, où là, il sera tout seul aussi, Bud Spencer. Alors, El Magnifico, c'est un film assez étonnant, parce que il a souvent été vendu comme le troisième Trinita, ce qu'il n'est pas vraiment, en fait, ce qu'il n'est même pas du tout. C'est l'histoire d'un pied tendre qui est joué par Terence Hill, qui s'appelle Tom Moore dans le film, qui quitte l'Angleterre, qui arrive aux USA à la mort de son père. Et là-bas, il y a une petite cabane dans la colline qui lui est léguée par son père. Et il va Il va s'installer là-bas, va retrouver trois acolytes de son regretté père. Ils sont en fait trois voleurs, mais alors trois voleurs pas très doués. Hein, voilà. Et il va découvrir notre petit Briton, l'Ouest sauvage américain. Et lui, en fait, il a plutôt envie de chasser les papillons. Il fait son sport le matin, tout ça. Enfin, c'est pas du tout un cow-boy, en fait. Hein, c'est un gentleman britannique. Et bon, ben... ça va quand même finir qu'il va être confronté à des bagarres, à des duels. Et puis, il va, évidemment, il y aura aussi un petit peu d'amour dans tout ça, voilà. Et le film est assez étonnant parce que le film est plutôt sur une veine nostalgique. On n'est pas dans les Trinitas. Bon, il y a de l'humour, hein, mais on n'est pas dans le même univers un peu gaguesque que les Trinitas. On est dans quelque chose de... d'un réalisateur qui a conscience que le genre est en train de s'essouffler et puis qui illustre le thème du pied tendre, qui n'est pas si fréquent que ça en fait dans le western italien. Ça a été assez peu illustré, beaucoup dans le western américain, mais pas tant que ça dans le western italien. Et Christophe Chabdia, d'ailleurs, le rappelle dans le livret, hein, qui est vraiment très complet. Et au final, en fait, le film est plus proche de Mon nom et personne, hein, sans atteindre le niveau du chef-d'œuvre de Tonino Valéry, mais il est plus proche de cet état d'esprit-là. Et Christophe Chabdia, lui, voit même dans ce western humaniste une œuvre qui met en avant des vraies idées révolutionnaires que sont celles de la gentillesse et de la bienveillance. Alors, on ne peut qu'être d'accord avec lui, hein, surtout quand on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça fait ces petites bouffées d'air frais. Moi, voir ce film, ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien. Et puis Terence Hill égale à lui-même. En fait, on adore Terence Hill, en vérité. Hein. Il a ce côté bonhomme, ce côté tranquille. C'est cet acteur avec qui on a tous grandi. Enfin, en tout cas, les gens de ma génération. Et puis, en fait, aussi, il ne faut pas oublier, parce que certains ont été très durs avec lui. C'est rappelé aussi dans le livret, qui est plus qu'un livret, d'ailleurs, hein, qui est... presque un livre, hein, parce qu'il fait une centaine de pages, signé par Christophe Chabdia. Enzo Barboni, il a quand même été assez vilipendé. Hein. On l'a accusé d'être le fossoyeur du western, alors que ce n'est pas lui qui a lancé les premiers westerns comiques. Léon a eu des mots très durs avec lui, mais Léon, qui est un très grand metteur en scène, n'avait pas l'air d'être un type très sympathique, en vérité. Hein. Il a eu des mots très durs avec pas mal de monde. Et puis... Même Corbucci n'a pas été très sympathique avec lui, alors qu'il a été Enzo Barboni, le directeur de la photo attitré de Corbucci, sur tout un tas de films. Et quand on connaît ce cinéaste que j'adore, hein, Corbucci, mais son côté dilettante, heureusement qu'il avait un super directeur de la photo quand même. Voilà, il faut le dire, parce qu'Enzo Barboni, c'est un super directeur de la photo. C'est-à-dire, les Trinitas sont beaux, et maintenant on l'appelle Magnifico, c'est beau. C'est un très grand technicien. Voilà, donc c'est une manière de lui rendre hommage, et maintenant on l'appelle Magnifico, donc qui est disponible chez Bubble Pop. Donc on vous invite à voir ou revoir ce film avec l'innocence d'un enfant qui découvre le western. Voilà. Alors, on vous souhaite un bon visionnage de ce film qui franchement mérite une deuxième vision, une troisième, une quatrième.
Io mi accorgo di esserti diventato grande. Vedo solo facce stanche. E quando viene sera, proietto una lunghissima ombra.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.